L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Voilà, c'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, on va parler de Steve Jobs. Mais sachez que tout à l'heure, on retrouvera notre dossier d'atelier US, notre World Tour aussi avec l'essor de la FinTech européenne. Et puis après, on enchaînera avec le crash test d'Antoine, bien évidemment. Et puis Eric Le Bourlou, de la rédaction de Zéronet.com, qui me rejoindra, et Guillaume Degroisse aussi de l'atelier qui sera là. Merci d'être avec nous comme chaque samedi. L'actualité de Steve Jobs est on ne peut plus intense, puisque vous le savez, le deuxième biopic de Steve Jobs est dans les salles depuis quelques jours. Un film qui partage un petit peu ceux qui l'ont vu. Hein. Il y a ceux qui aiment et puis ceux qui n'aiment pas, parce que c'est véritablement pas une biographie. On va dire que c'est trois scènes de la vie de Steve Jobs et puis basta. Voilà. Et on va en parler avec Lila, qui a eu la chance de voir ce film, bien sûr. Et puis notre invitée, Lila, qui connaît
tout à fait
par cœur la vie de Steve Jobs.
Grand spécialiste français, s'il en est, de Steve Jobs. Daniel Ijbia, bonjour.
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 Alors,
Daniel
Ijbia, vous êtes auteur de la biographie Steve Jobs 4 vies,
oui,
parue aux éditions Delpierre, et que vous avez un peu rafraîchi il y a quelques mois.
Tout à fait.
On peut dire ça.
Ouais.
Alors, vous le disiez, François, ce film Steve Jobs, réalisé par Danny Boyle, est un film assez brillant, enfin selon moi, qui se répartit un peu en trois actes. Danny Boyle prend un peu le parti de filmer ça un peu comme une pièce de théâtre. Mm-hmm. On va retrouver dans les coulisses de trois lancements majeurs.
Voilà, c'est en fait trois instants clés de la vie de Steve Jobs et trois lancements de produits. C'est ça, hein.
Tout à fait. Celui du Macintosh.
Pas si clé que ça, parce qu'il n'y a pas le lancement de l'iPhone.
Il n'y a pas l'iPhone qui, pourtant,
a
été.
Il n'y a pas l'iPod. Il y a énormément de choses qui manquent.
Alors, du NES.
Ni l'Apple 2.
De l'iMac.
Bah oui.
Et, ce qui est assez curieux, c'est qu'il se focalise, sur la relation père-fille.
Oui.
De Steve Jobs, avec sa fille, sa fille aînée.
Mais oui, et qui est homéopathique pour le personnage, quoi. Je veux dire, je suis parti dans l'homéopathie, mais je veux dire, c'est lilliputien par rapport à ce qu'il a accompli. Ouais. Et par rapport à ce que représente Steve Jobs. Je sais pas pourquoi il a pris cet acte. Moi, j'ai une quasi-certitude, c'est qu'il n'a jamais rencontré Steve Jobs.
Aaron
Et je
Sorkin.
Pense que ceux qui ont pu rencontrer Steve Jobs pouvaient percevoir la grandeur de ce personnage, parce que personne va bosser pour un type qui est tyrannique et qui a des idées obtuses si c'est pas un génie hors du commun, quoi, je veux dire. Et Steve Jobs n'est pas différent de certains grands personnages qui sont très pas faciles dans la vie privée, mais qui restent des génies comme Picasso, comme James Cameron, qui a fait Titanic et Avatar, ou Bob Dylan, par exemple. Bob Dylan, bon, on a beau adorer ses chansons, c'est quelqu'un qui, dans la vie privée, n'est pas forcément très sympathique. Steve Jobs avait ce côté, mais en même temps, tellement de génie que, et de temps en temps, des éclairs aussi de bonté, parce qu'il n'y a pas que la face noire.
Mais c'est bizarre, pourquoi toujours cette face noire de Steve Jobs qui ressort? C'est dingue, parce que beaucoup de témoignages, moi j'ai rencontré des gens qui ont travaillé avec lui, qui disaient qu'il était ignoble au travail. Donc c'est pourtant là, on n'est plus dans la légende, hein. C'est quelque chose que les gens ont ressenti. On l'a lu beaucoup dans toutes les biographies, etc. Pourquoi? C'est qu'il y a forcément une raison, non?
C'est-à-dire ignoble, je pense que c'est un peu fort, mais il était têtu par moment. Au moment du Macintosh, son obstination à, par exemple, à ce que le Macintosh reste une machine fermée avec de la mémoire limitée, il est ni plus ni moins en train de couler Apple. Et je pense que John Sculley, malheureusement, à l'époque, a fait ce qu'il fallait. Parce que, bon, il aurait peut-être pu le faire avec plus de forme. Mais
John Sculley, donc, s'est séparé de Steve Jobs.
John Sculley, qui était PDG d'Apple en 84, s'est séparé d'Apple en 85. Mais il faut savoir que s'il avait laissé les rênes à Steve Jobs, Apple n'existerait plus aujourd'hui. Parce que Steve Jobs, à l'époque, manquait de mesure. De même que, d'ailleurs, en 96, quand il reprend les rênes d'Apple, il s'est assagi, il commence tout doucement à Déjà, quand on a vu, par exemple, arriver dans l'iMac, qu'on pouvait mettre des clés USB, c'était une révolution pour les gens qui achetaient de l'Apple, parce que ils commençaient à prendre en compte que le monde extérieur existait.
Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas que son écosystème.
Et au tout début, quand ils lancent l'iPod avec iTunes, au tout début, ils voulaient pas que Windows, c'est-à-dire quand même 95% du marché au début, en 2002-2003, que Windows ait iTunes, donc Windows pouvait pas accueillir les iPods.
Il paraît que c'est ces ingénieurs qui, à force de réunions, ont réussi à le convaincre de porter iTunes en fait sur Windows.
Tout à fait.
Et c'est à partir de là que l'iPod a eu énormément de succès, bien sûr.
Donc c'est un génie, mais qui pouvait être extrêmement obstiné. Mais bon, Picasso ou Bob
comme
Dylan sont un peu similaires.
Mais alors justement, dans le film, Danny Boyle pose un peu la question de savoir si Steve Jobs était un inventeur ou un innovateur. Quelle est votre position par rapport à ça? On a l'antagonisme Steve Wozniak et Steve Jobs dans le film. Est-ce que c'est très réaliste?
Dans la vie, ils s'adorent. Moi, je sais que j'ai témoignage de Wozniak dans mon bouquin. Wozniak, plusieurs fois, c'est un petit peu fait un écharpé par Steve Jobs, mais Wozniak, c'est quelqu'un, pour ça, dans le film, il ne ressemble pas du tout au Wozniak qu'on peut connaître. Wozniak est quelqu'un qui, la vie, il l'apprend très cool, il passe, il s'est fait arnaquer par Steve Jobs dès 1975, lorsque il a fallu créer un jeu pour l'Atari, et Steve Jobs c'est Wozniak qui a développé le jeu Breakout. Jobs a touché $3,000, il en a rétrocédé 250 à Steve Wozniak. Et Wozniak, quand on lui parle, il dit c'est pas grave, parce que Wozniak, il adore créer, et puis bon, il a dit bon, je passe l'éponge. Et le Wozniak qu'on voit dans le film n'existe pas. De même, je pense que dans le film, la plus grosse, comment dire, c'est même pas tant Steve Jobs qui est très très mal dépeint par Fassbender, qui n'arrive pas du tout à reconstituer cette grandeur d'âme malgré tout qu'il avait, qui était liée à la philosophie qu'il avait, zen, bouddhiste, etc. Mais surtout, John Sculley est totalement à côté de la plaque. John Sculley, il aurait fallu prendre un Irlandais, un petit peu roux, et puis WASP, vraiment WASP, enfin dire l'Américain blanc, très très avec beaucoup de classe. Et là, on voit un acteur un peu falot, enfin qu'on a vu dans pas mal de films, genre comment ça s'appelle à Seattle, je me rappelle plus là.
Coup de foudre
à Seattle. Enfin, c'est un acteur américain lambda. Et donc, il a pas du
tout. En plus, il ressemble pas véritablement à Steve Jobs.
Mais oui, il ressemble pas à Steve Jobs.
Même Fassbender, Michael.
Ouais. Il ne ressemble pas du tout à Steve Jobs. Et il y a même des points que j'ai pas compris. Il a même pas la même coupe de cheveux que Steve Jobs à l'époque. Il est coiffé en arrière, alors que c'est évident. Il suffit d'aller sur YouTube, on regarde la vidéo de lancement du Macintosh. Il est coiffé à la Beatles.
Oui, oui, c'est vrai.
Il a les cheveux beaucoup plus foncés.
Il faut dire que la production du film aurait été assez difficile. Ils ont changé plusieurs fois de réalisateur. David Fincher était envisagé.
Je crois qu'il y a eu des problèmes de production aussi.
Oui, il y a eu le casting qui a été compliqué également. Tom Cruise a été envisagé à un moment pour incarner Steve Jobs.
Moi, je pense que finalement, il aurait fallu un acteur qui avait quelque part quelque chose d'oriental, parce que Steve Jobs avait un père biologique qui était syrien, et ça se sentait dans sa morphologie avec ce long nez, etc. Et il y avait quelque chose de très légèrement oriental qu'on ne retrouve pas du tout dans Fassbender.
Et alors, pour revenir à cette question d'inventeur,
oui, alors,
inventeur, pour moi, innovateur,
c'est pas le mot.
Ouais.
Pour moi, Steve Jobs, la meilleure analogie que je trouve, c'est directeur artistique. Je donne un exemple. La personne qui a produit Amy Winehouse, c'est un directeur artistique anglais qui voit passer des chanteuses, des démos toute la journée. Quand il a vu Amy Winehouse, il a dit « c'est celle-là, je la veux ». Et donc, Steve Jobs avait
la vista.
C'est-à-dire que bon, par exemple, il va voir chez ses ingénieurs quel est le projet qu'il faut prendre. Il découvre cet ordinateur au look de bonbon et il dit je veux ça. Il saute en l'air, il n'en peut plus. Les gens du conseil d'administration s'ils se disent ça y est, il est en train de couler Apple à nouveau. Et non, et il va complètement à l'encontre du marketing qui lui brandissent des études de marché, mais personne ne veut un ordinateur comme ça. Et il dit, mais croyez-moi, ça va marcher. Et puis ça devient un hit énorme, quoi.
C'est-à-dire qu'il sentait les choses. Donc, c'est pas lui qui a inventé, parce que souvent on fait cette analogie, on se dit
c'est-à-dire,
Steve Jobs a tout inventé, mais voilà, il savait prendre les bonnes idées au bon moment.
Il savait prendre les bonnes idées, il savait prendre. C'est plutôt un meneur de projet, quoi. Donc, quelqu'un.
Génie du marketing, pour autant.
Marketing, mais c'est beaucoup plus le génie d'une sorte d'intuition de ce qu'attendent les gens à un moment donné. Parce que il a eu cette intuition que les ordinateurs, on avait envie d'un bel ordinateur. On avait envie de quelque chose de beau à mettre dans son salon. On a envie de mettre un Mac. On n'avait pas forcément envie de mettre un PC. Les PC sont devenus beaux depuis, grâce au Mac. Et les téléphones sont devenus beaux, les iPods, les gens ne se rappellent pas comment étaient les lecteurs MP3 avant l'iPod, mais c'était une catastrophe.
Oui, c'était une ergonomie.
C'était des tanks, quoi.
Ouais, c'est clair.
Et donc, il a changé, il a introduit la notion que le beau est plus important que la fonction.
Au final.
C'est un artiste. Ah, tout à fait, c'est un artiste. Complètement. Se voyez comme ça.
Est-ce que vous pensez qu'il... Je vais poser la question de manière très candide. Steve Jobs serait-il un vrai révolutionnaire ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il marquera l'histoire de la même manière qu'un Alan Turing? Sauf qu'il a pu bénéficier d'une certaine renommée de son vivant.
Je pense qu'il marquera l'histoire parce que s'il n'avait pas été là... Bien des objets qu'on utilise dans notre vie quotidienne, à commencer par les ordinateurs, seraient restés des objets moches parce que le mode compact IBM, sans vouloir être du tout méchant avec sa société, un ordinateur, c'était fonctionnel. Et lui, il nous a fait des beaux objets. Ça a commencé avec le Macintosh dès 84, ou même dès l'Apple II, quoi.
Ça fait bientôt 5 ans que Steve Jobs nous a quittés. Hein. Il est parti en octobre 2011.
4 ans et demi, oui, ça.
Voilà, ça fera 5 ans, donc en octobre 2016. Que devient Apple sans Steve Jobs, Daniel Ishbia?
Je suis partagé, parce que je pense que j'étais très inquiet avec Tim Cook. Je pense qu'il se débrouille plutôt pas mal, finalement. Mais il manque chez Apple. On attend des nouveaux projets. Quand on utilise du Apple, on est prêt à payer plus cher pour avoir vraiment 10 fois mieux que la concurrence. Et maintenant, c'est quand même difficile à dire. On peut pas dire que les iPhones soient 10 fois meilleurs que les
Mais est-ce que Steve Jobs aurait sorti une Apple Watch, par exemple? Est-ce qu'il aurait sorti un iPad Pro avec un stylet, alors qu'on sait qu'il détestait les stylets et que pour lui, l'interface était le doigt? Il y a plein de questions qu'on se pose comme ça.
Moi, ce que je me dis, c'est que les Google Glass seraient peut-être nés chez Apple et peut-être que les voitures que c'est en train de faire Elon Musk seraient peut-être sorties chez Apple. Steve Jobs avait le don de débarquer là où on l'attend pas. Peut-être dans les robots, peut-être dans les machines intelligentes, mais je pense qu'il serait pas allé là où on l'attend. Le propre d'Apple aussi, c'était de nous surprendre.
Ouais. Ben voilà, ça, on ne le saura jamais, bien évidemment. Merci beaucoup, Daniel.
Merci.
Daniel Ishbia, auteur de ce livre, donc.
Steve Jobs, 4 vies, paru aux éditions Delpierre. Merci beaucoup.
Vous faites le film.
Merci.
Et après le bouquin de Daniel. Comme ça, vous êtes au top. Enfin, il y a aussi la bio de Walter Isaacson qui est proprement.
Pas de gros mots.
Allez bien, quand même. Moi, j'ai passé un bon moment là.
D'accord.
Vous n'êtes pas d'accord, non, mais dites-le-moi.
Non, en fait, je l'ai pas lu, je dois dire.
Mais bon, voilà. Comme ça, au moins, vous aurez plusieurs avis. Merci beaucoup, Daniel. Okay. On revient dans un instant. La suite de cet atelier avec le dossier de l'atelier US et puis notre World Tour, bien sûr, sur BFM Business. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques instants, ce sera la rédaction de 01net.com. Comme chaque samedi, avec Éric Le Bourlou qui sera à mes côtés. On s'intéressera à toute l'actualité que vous avez pu lire cette semaine sur 01net. Mais dans l'immédiat, c'est notre dossier de l'atelier US. Et le dossier de l'atelier US, cette semaine, c'est avec vous, Pauline Cantner.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Christian et Géa, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui au micro de l'atelier. Vous êtes design manager au Stanford Healthcare, qui est soi-disant l'hôpital le plus connecté des États-Unis. Alors tout d'abord, Christian, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et nous expliquer qu'est-ce que l'expérience utilisateur Lean, qui est l'objet de vos travaux?
Donc, je suis franco-américain. Je suis né aux États-Unis. J'ai grandi ici. J'étais scolarisé ici. Et ensuite, je suis allé vivre en France pour les études supérieures et j'ai commencé ma carrière professionnelle de designer là-bas. J'ai commencé dans une agence parisienne qui s'appelle Atoma. Et ensuite, je suis revenu aux États-Unis où j'ai travaillé chez Frog à Austin, Texas et ensuite à San Francisco. Et il y a à peu près 2 ans, j'ai quitté le conseil après plus d'une décennie dans le conseil design pour intégrer Stanford Healthcare, qui est à Palo Alto, où je suis le design manager de l'équipe du design et du développement des applications. Et on travaille sur plusieurs projets à la fois pour des clients externes, les patients notamment, et aussi des clients internes, donc les employés. On peut travailler sur des applications qui sont des deux côtés, mais notre priorité en ce moment, c'est le portail patient qui s'appelle MyHealth, qui est une application web et aussi mobile sur iOS et Android. La version Android, on va la sortir au mois de janvier, Et donc c'est une application qui permet, c'est le point de contact numérique privilégié entre Stanford Healthcare et ses patients. Et ça permet aux patients de consulter leurs résultats d'examen, de prendre rendez-vous avec leur équipe médicale, de communiquer avec l'équipe médicale, de payer des factures tout en ligne.
Est-ce que le Lean UX, donc l'expérience utilisateur Lean, est-ce que ça nous amène à certains changements dans notre manière de travailler en entreprise?
Alors voilà, c'est justement l'évolution que j'ai faite moi professionnellement entre le conseil et l'intégrer, être designer intégré. Ça m'a permis aussi d'évoluer d'une pratique par livrable et par morcellement de la méthodologie design à une pratique qui est beaucoup plus en continu, plus durable. Ces pratiques-là s'inspirent d'une méthodologie du développement centré ingénieur qui est agile. Ça s'appelle Agile, qui a été développé, pensé au début des années 2000, et donc qui prône le découpage du travail en petites séquences relativement courtes, donc une question de semaines. Donc les projets ne sont plus des gros projets sur des mois ou des années, mais c'est maintenant du travail qui est pensé en petites quantités. Et aussi sur une nouvelle forme de collaboration entre disciplines qui était jusqu'à ce moment-là relativement séparée. Donc surtout les disciplines des commerciales ou de la stratégie commerciale et la discipline de la réalisation technique. Et donc le Lean UX qui s'est inspiré en fait comme le nom l'indique du système industriel de Toyota qui était plutôt qui focalisait sur l'opérationnel et l'organisationnel. Ces pensées-là ont fait leur chemin et sont venus informer le développement agile pour réintroduire, en fait le Lean UX réintroduit des méthodologies centrées sur l'humain, les méthodologies design centrées sur l'humain dans la méthodologie agile.
En bref, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux entreprises pour peut-être mieux travailler ensemble?
Donc oui, justement, qu'on essaie de faire à Stanford Healthcare, c'est créer de nouvelles opportunités de collaboration entre des disciplines qui, jusqu'à présent, on voit traditionnellement, ne se parlaient pas à cause des systèmes d'organisation et des divisions traditionnelles. Donc on essaie de collaborer de manière plus continue avec des... la stratégie commerciale avec les développeurs. Enfin, moi-même, on est assis en fait dans le même espace. On partage le même espace à Stanford Healthcare et qui nous permet d'avoir des conversations à n'importe quel moment, et à résoudre les problèmes ensemble. On continue. Et l'autre chose que cette approche du Lean UX nous permet de faire, c'est d'introduire les utilisateurs eux-mêmes dans notre manière de travailler. Donc on voit, on a une dynamique où on rencontre les utilisateurs des vrais patients de Stanford Healthcare toutes les deux semaines. On voit des représentants de la communauté des patients et on leur montre notre travail, on les observe en train d'essayer d'utiliser ce qu'on crée avec les développeurs. On teste nos hypothèses de ce qui constitue une bonne expérience utilisateur et on révise en fonction des retours qu'on a de leur part.
Merci beaucoup Christian Egea. Pour rappel, vous êtes design manager au Stanford Healthcare. Merci encore.
Merci Pauline. Et après le dossier de l'atelier, place à notre World Tour et on revient en Europe. On va s'intéresser à l'essor de la fintech européenne avec votre invité Lila Megrawa.
Laurent Niseri, bonjour.
Bonjour.
Laurent Niseri, vous êtes CEO du cabinet Altair Consulting. Vous êtes également créateur et organisateur du Paris Fintech Forum qui a eu lieu le 28 janvier dernier à Bercy. Alors, en ouverture de l'événement organisé, vous déclariez vouloir faire avec cet événement de Paris la capitale de la fintech.
Alors, un peu de modestie d'abord, je voulais faire de Paris la capitale de la fintech européenne pour une journée. C'est déjà pas mal comme ambition. Effectivement, nous avons réussi, pas seul, grâce à l'aide de nombreux partenaires, qu'ils soient sponsors ou partenaires médias, et surtout grâce à l'aide et la participation de plus de 100 orateurs de 12 pays européens, de nombreux Français bien sûr, mais plus de 45% d'entre eux venaient d'une douzaine d'autres pays. Et c'est grâce à eux que ça a pu être une manifestation qui a rempli ses objectifs. Pourquoi faire capitale de la fintech européenne? Parce que comme beaucoup, la finance digitale, la fintech, c'est pas nouveau, on le voit. Comme beaucoup, j'ai un peu toujours l'impression qu'on ne parle que de Londres et qu'on doit battre sa coupe et presque s'excuser d'être français, de vouloir faire de la finance. J'ai participé à une très belle aventure, moi, il y a plus de 15 ans, qui s'appelait The Bank, pour ceux qui ont, comme moi, des cheveux blancs. On voulait créer la banque du futur. En fait, c'est même pas la peine que je vous raconte. Il suffit que vous ouvriez le journal sur n'importe quelle fintech bancaire d'aujourd'hui, puis en fait, il y a les mêmes mots. Sauf que c'était il y a 15 ans et qu'avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Donc, on a levé de l'argent, on l'a perdu, on a fait une très belle aventure. Et puis, j'ai fait autre chose après. Entre autres, donc, je dirige ce cabinet de conseil en stratégie et innovation dans la finance digitale où on accompagne énormément d'entreprises, que ce soit des grands groupes comme Orange ou d'ailleurs aussi la BNP d'ailleurs, ainsi que d'autres groupes bancaires et financiers, des assureurs comme Allianz, AXA, mais aussi de nombreuses fintechs dans plusieurs pays d'Europe. Et on se rend compte que quand on regarde la presse, on a l'impression que tout se passe à Londres ou aux États-Unis. L'Europe, c'est pas que Londres, et c'est sûrement pas les États-Unis.
Le mouvement fintech, c'est pas nouveau. Comment vous expliquez ce regain d'intérêt ou cet intérêt qui semble quelque peu soudain?
Il y a plusieurs facteurs. Alors dans le peu de temps qui nous est imparti, ça serait un peu compliqué, mais disons d'abord que la fintech, c'est un mot pour plein de réalités. Je vous ai remis un petit livre qu'on a commis à l'occasion de cet événement et on détaille ça dans cet ouvrage. Mais ça recouvre vraiment différentes réalités, différents métiers. Il n'y a pas beaucoup de points communs entre un acteur du paiement B2B qui est catalogué fintech et un acteur du crowdfunding dans un pays nordique, ni en termes de réglementation, ni en termes de marché, ni en termes de levée de fonds potentiels, etc. Et il y a, je vous ai cité deux secteurs, il y en a 15. 15 ou 20 d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. Si j'essaie quand même de répondre à votre question, pourquoi ce buzz? D'abord, il n'est pas que dans la fintech. Il y a un buzz global et vous y participez dans tout ce qui est création d'entreprise, start-up. On l'a vécu aussi à la fin des années 90 avec une première bulle. Alors, j'aime pas dire première, ça voudrait dire qu'il y a la deuxième. Mais on l'a vécu et tant mieux. Ça avait été beaucoup d'énergie créatrice à l'époque et c'est beaucoup d'énergie créatrice aujourd'hui. Alors, pourquoi plus de buzz dans certains secteurs, mais il n'y a pas que la fintech encore une fois, et on a à peu près le même genre de buzz dans la biotech ou dans le big data, mais pourquoi beaucoup de buzz dans la fintech? Parce qu'on a un alignement de planètes qui est effectivement le bon pour favoriser que certaines de ces pépites marchent et vraiment ça devienne des champions et peut-être des licornes. Alors, j'aime pas ce terme non plus parce que les licornes, ça vaut 1 milliard, c'est pas pour ça que ça les vaudra longtemps. Mais néanmoins, il y a un bel alignement de planètes. C'est quoi? Quels sont ces facteurs? Alors, vous avez tout d'abord la réglementation. On aime bien dire que la régulation ou la réglementation pèse. Dans les faits, en Europe, on a beaucoup dérégulé. Beaucoup de secteurs, les télécoms dans les années 90, l'énergie un peu après, les transports, et ça a créé beaucoup d'activités dans tout ce secteur-là. La finance n'y échappe pas. C'est venu plus tard. Depuis 2007, il y a un grand nombre de réglementations, je ne vais pas vous citer les acronymes pour ne pas vous endormir, mais qui se sont accumulées les unes les autres et qui arrivent à une situation où, en fait, le marché, aujourd'hui, a les armes réglementaires pour que de nouveaux acteurs pénètrent ce marché. Ils peuvent le faire en toute légalité et ils peuvent le faire avec, en plus, des conditions de fonctionnement très souvent allégées par rapport aux acteurs de la finance classique qui ont d'autres obligations, d'autres droits aussi, mais parfois bien plus lourdes. Donc ça permet déjà à plein de nouveaux acteurs d'arriver sur ce marché. Deuxièmement, vous avez les technologies. Je rappelais tout à l'heure mon expérience de la fin des années 90. Il y avait 300 000 foyers connectés en mars 2000 en France. Aujourd'hui, on se pose même pas la question. Je pense que c'est même pas le sujet. Éventuellement, on va se demander combien ont des smartphones. Et ils sont très nombreux. Donc, les possibilités sont infinies. L'omniconnexion, c'est pas le mobile le problème, c'est l'omniconnexion. On est tous connectés partout, là je suis en train de vous parler, vous avez un ordinateur, un téléphone, j'ai un smartphone, on a autre chose dans la poche à côté.
Alors justement, comment se passe cette cohabitation entre à la fois les acteurs traditionnels de la finance, banquiers et autres, et les start-up? Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de collaboration parfois réussie?
Non seulement on peut parler de collaboration réussie, mais je pense qu'il faut tendre le coup une bonne fois pour toutes. Alors on a essayé de beaucoup le faire au forum le 28 dernier, et puis je l'ai fait tout au long de l'année dans des publications, parfois lorsqu'on me donne la parole. la guerre n'est que factice. La guerre fintech, établissement financier, c'est une guerre d'apparat qui permet, j'allais dire, à moindre frais, de faire de la communication pour les nouveaux entrants, et puis d'avancer masqué peut-être pour les anciens. Donc tout ça n'a pas beaucoup d'importance, ça nourrit, comme tout le monde, les journalistes, pardon, vous en êtes une, on aime bien parler des trains qui arrivent en retard et des choses qui marchent pas, plutôt que de dire tout va bien, ils ont l'air de bien s'aimer. Donc voilà, après, on voit qu'il faut du temps, de l'argent, de la confiance. Les acteurs classiques de la finance l'ont, il leur manque souvent l'agilité, l'audace et peut-être le brin de folie et d'innovation. Les fintechs l'ont, ils sont forcément faits pour s'entendre.
Merci Lila, on revient dans une minute. Suite de l'atelier avec la rédaction de Zeronet.com. Et juste après, ce sera le crash test d'Antoine, dédié à un service que vous avez peut-être connu. Il s'agit de Caramail. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business, le crash test d'Antoine dans quelques instants. Il sera question de Caramail. Vous avez peut-être une adresse mail Caramail. Eh bien, on va remonter le temps et voir ce qui reste comme trace de Caramail sur Google aujourd'hui. Ce sera le crash test d'Antoine et puis on retrouvera aussi Guillaume de Groisse tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, il est à mes côtés, le rédacteur en chef du site Zeronet.com nous a rejoint, Éric Le Bourlou. Bonjour Éric.
Bonjour.
Éric, l'actualité high-tech cette semaine qui a bien fonctionné sur Zeronet.com, on va commencer par cette rumeur persistante concernant le 15 mars.
Et oui.
Si vous êtes un fan d'Apple, il va falloir réserver votre soirée.
Oui, il faut préparer son agenda, effectivement. Le 15 mars, ça devrait être la grande conférence d'Apple de ce début d'année. Alors, il y a pas mal de choses au programme hein, sur cette conférence. On va commencer sans doute, on en a déjà parlé ici, mais il y aurait sans doute un nouvel iPhone. Alors, ce serait pas l'iPhone 7, hein, que celui que toute la majorité des gens attendent, mais un iPhone 5 SE, donc une version avec un écran plus petit et aussi une version moins chère pour qu'Apple puisse aussi essayer. Comme on disait, ce ne sera pas forcément pas cher du tout, mais en tout cas, ce sera un peu moins cher que l'iPhone 7. Mais il n'y aura pas que ça. Il devrait aussi avoir un nouvel iPad, un iPad Air 3. L'iPad Air n'a pas été, rafraîchi depuis quelques temps. Et bon, il serait logique qu'il soit rafraîchi là. Et il y aurait aussi, pourquoi pas, un nouveau modèle de watch, hein, la montre Apple qui, connaît un certain succès dans le secteur des mondes connectées, mais qui n'a pas explosé. Hein, vous devez voir.
On atteint rapidement les limites techniques de cette montre.
Voilà, elle n'est pas très très puissante. Et puis bon, elle n'a pas encore d'usage extrêmement intéressant qui font que ça devient indispensable. Mais en tout cas, là, ce serait une watch, on pourrait dire S, hein, c'est une rumeur en tout cas qui traîne, qui serait pourquoi pas aussi un petit peu moins cher, parce qu'on sait que la montre Apple, elle n'est pas donnée, et qu'en face, il y a pas mal de montres, notamment du côté de chez Android, qui sont à des prix bien plus intéressants.
Ils vont être contents, ceux qui ont mis 10 000 euros dans une montre Apple Watch l'année dernière, et qui vont avoir un nouveau modèle qui va arriver.
Ils ont peut-être droit à un échange gratuit, c'est possible.
Ouais, non, ça m'étonne rien. J'y crois pas, en fait. Mais pas du tout, en fait. Bon, non. Voilà, ça sera le 15 mars, à suivre bien évidemment sur Zeronet.com et Zeronet TV, avec une grande émission en vidéo sur Zeronet.tv.com pour vivre en temps réel toutes ces annonces. Peut-être d'autres surprises, qui sait. Notant que Tim Cook est un personnage assez étonnant, hein, Eric. On l'a même remarqué encore cette semaine.
Exactement.
Avec des propos assez, inattendu.
Inattendu, oui, parce que effectivement, on connaît Apple pour sa spécificité, c'est-à-dire qu'Apple fait le matériel et fait le logiciel et propose aux ses clients une solution complètement intégrée et ne propose pas forcément ses logiciels sur d'autres plateformes. Alors, ils le font pour Windows, hein, il y a iTunes qui existe, mais pour l'instant, ils ne faisaient quasiment rien pour Android, qui est la plateforme concurrente d'en face. Et ils ont fait récemment Apple Music. Et Tim Cook, effectivement, lors d'une réunion avec ses salariés, a dit que ça pourrait aller beaucoup plus loin dans les années qui viennent. Et qu'Apple, il ne voyait pas d'objection, lui, à ce qu'Apple développe davantage, beaucoup plus d'applications pour des plateformes concurrentes, typiquement Android. On sait que Apple, c'est à peu près 17% du marché, mais que Android, c'est quasiment le reste, en fait. Donc c'est énorme, le nombre d'utilisateurs d'Android. Et sur ces plateformes, il n'existe aucun logiciel Apple, il n'y a pas d'iMessage, il n'y a pas d'iCloud, on est dans un autre monde. Et Apple voudrait bien sans doute changer cela pour essayer de grappiller de nouveaux clients, hein, bien sûr, typiquement pour Apple Music, c'est vrai que ça permet à Apple de s'ouvrir à un nouveau marché, mais ça pourrait être utile pour lui pour plein d'autres services. Et donc ça pourrait se faire si effectivement Apple Music, alors si Apple Music est un succès, c'est un peu la condition qu'il a donnée, s'il voit qu'Apple Music décolle sur Android.
On pourra avoir d'autres applications,
voilà, voire
Made in Apple
vite,
qui pourraient arriver sur Android.
Exactement, alors c'est un changement de paradigme assez important pour Apple, mais qui fait penser à quelque chose qui s'est passé assez récemment aussi pour une autre grosse entreprise des nouvelles technologies qui est Microsoft. Microsoft auparavant développait ses logiciels pour sa propre plateforme, bon, à quelques exceptions près, hein, mais pour Windows, et désormais Microsoft développe toutes ses applications, pas Office, mais bien d'autres choses, hein, Word, Excel, etc., pour aussi les iPhones, pour Android, parce que voilà, ils sentent bien que sa plateforme n'est plus forcément celle qui domine et qu'il faut bien vivre avec son temps. Donc voilà. Apple pourrait suivre aussi ce chemin.
Alors c'est étonnant parce que imaginez que demain iCloud arrive sur Android. Ça pourrait aussi faciliter le switch entre les deux plateformes.
Exactement, ça pourrait aussi
faciliter. Un utilisateur d'iPhone pourrait passer très facilement sous Android puisqu'il conserverait iCloud.
Exactement, et ça permettrait effectivement Apple de récupérer des clients côté hardware aussi, ouais.
Étonnant, on verra bien. On enchaîne maintenant avec une petite anecdote qui a bien cartonné sur zeronet.com. Il s'agit de cette histoire d'USB-C qui non seulement marche pas dans certains cas, mais en plus peut carrément bousiller un ordinateur.
Exactement.
Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça qu'on dit.
Juste pour rappeler ce que c'est que l'USB type C, ce sont les câbles du futur, c'est-à-dire que demain, votre téléphone, votre ordinateur, à peu près tout ce qui se recharge aura cette prise-là. C'est une prise universelle, donc c'est génial cette idée d'avoir une seule prise pour à peu près tous les objets électroniques. Hein. Ce sera la prise de demain. Elle arrive quand même déjà sur certains smartphones.
Alors, peut-être pas sur Apple tout de suite, on sait pas.
Alors, elle existe déjà, oui, pour l'instant je suis pas tout à fait chez Apple, mais elle existe déjà sur le nouveau MacBook. Hein. C'est d'ailleurs sa seule prise.
Exactement.
Cette prise USB-C. Et le problème de cette prise USB-C, c'est qu'elle a été conçue pour faire transmettre beaucoup de courant parce qu'elle, justement,
elle peut alimenter
un ordinateur sans problème. Le problème, c'est que les câbles que vous pouvez acheter en USB-C, ils sont pas tous très bons et que certains, en fait, ne respectent pas la norme USB type C et en fait sont mal conçus, tout simplement, ont des résistances pas assez importantes, notamment. Ce qui fait que vous branchez ça à votre ordinateur et votre ordinateur peut tout simplement cramer, ou en tout cas être abîmé.
Il y a trop d'électricité qui rentre dans
exactement, ça abîme
dans
l'ordinateur.
Et ça crame tous les composants.
Voilà, le problème,
c'est quand même embêtant.
C'est assez embêtant. Alors, des petits câbles comme ça, vous en trouvez plein sur Amazon, hein. Il y en a beaucoup sur tous les magasins en ligne. Et puis, si vous en achetez un, vous faites pas attention, vous pouvez vous retrouver avec
ce genre de
problème. Alors, c'est un ingénieur de Google qui s'amuse tous les week-ends à tester les câbles qu'il achète sur Amazon pour voir s'ils sont bon ou pas, et effectivement ça lui est arrivé. Le dernier qu'il a acheté, il l'a simplement branché à son ordinateur pour le recharger, un pixel de Google, et hop, son ordinateur a plus ou moins grillé, enfin les ports USB de l'ordinateur ont grillé, voilà, l'ordinateur est plus ou moins maintenant inutilisable, et voilà, à chaque fois cette personne fait une petite review sur Amazon en expliquant ce câble, ne l'achetez pas, il est pas bon,
il est pas
etc.
Bon,
mais tout ça pour dire qu'il va falloir faire très attention aux câbles qu'on achètera demain, utiliser évidemment ceux qui sont livrés avec l'appareil, mais si vous avez besoin d'en changer, il faudra faire très attention aux câbles USB-C que vous achetez et en acheter de bonne qualité. Et on se demande d'ailleurs comment il se peut qu'une norme aussi importante que celle-là, que l'USB-C, puisse donner des produits d'aussi mauvaise qualité. On rappelle quand même que ça a été notamment conçu par des gens comme Google ou Apple.
Qu'un cahier des charges n'est pas respecté là.
On se retrouve avec un truc sans label, on achète n'importe quoi et on se retrouve avec des appareils inopérants. C'est un petit peu dangereux et j'espère qu'on va pouvoir trouver une solution assez vite à ce souci.
On est d'accord. On va maintenant évoquer le monde impitoyable du piratage de vidéos sur Internet. Et avec entre autres Popcorn Time que vous connaissez peut-être, hein, qu'on a de temps en temps évoqué dans la télé numérique sur BFM Business. Popcorn Time n'existe plus, en tout cas aujourd'hui de manière officielle,
hein, mais oui.
Voilà, puisque les ayants droit ont réussi à faire interdire ce logiciel qui permettait de regarder tout ce qu'on voulait, un peu comme Netflix sans payer.
C'est l'alternative, c'est le plus gros concurrent de Netflix, hein, c'est le patron de Netflix lui-même.
Oui, c'est ce qu'avait dit Reed Hastings, effectivement, parce qu'en plus là il n'y avait pas de problème de chronologie, hein, des médias, vous aviez tout ce que vous voulez, hein, sans problème et sans payer. Et bien malgré tout, il est en train de ressusciter ce Popcorn Time finalement.
Et en fait, les développeurs de ce Popcorn Time là sont des gens très très malins et en fait qui pourraient donner vraiment des cheveux blancs aux ayants droit une nouvelle fois, puisque ce qu'ils ont développé là, ce n'est plus un logiciel qu'on télécharge directement sur sa machine, c'est un plugin pour les navigateurs, pour l'ensemble des navigateurs les plus populaires.
Rappelons que c'est un plugin, hein, c'est un petit voilà, exécutable, hein, un petit programme que vous installez.
Exactement, qu'on ajoute à son navigateur.
Voilà. Par exemple, les adblock, hein, qui coupent les pubs, c'est un plugin.
Voilà, exactement. Donc là, vous ajoutez, vous simplement vous téléchargez ça, et votre navigateur devient, en fait, sans que ce soit montré, compatible avec BitTorrent, la technologie qui est utilisée comme Popcorn Time. Et puis ensuite, simplement, vous vous rendez sur un site web qui propose ce genre de contenu pirate. Vous lancez le film. Et ça y est, vous avez directement votre film via votre navigateur. Alors, ça change tout. Et en streaming. Ça change tout. Pourquoi ? Parce que maintenant, il suffira que quelqu'un lance un site pirate. On pourrait lancer des dizaines ou des centaines de sites pirates. À partir du moment où un utilisateur a ce plugin sur sa machine, eh bien, il pourra consulter des dizaines de sites. Donc, la cible pour les ayants droit, ce n'est plus un Popcorn Time. Demain, ça pourra être 100 Popcorn Time différents. Et là, ça va être très, très compliqué de les fermer tous.
Voilà. Après, la question qu'on peut se poser, est-ce que on peut installer ce genre de petit plugin sur son ordinateur ?
Sans risque.
Est-ce qu'on va pas en même temps installer toute une panoplie
Exactement.
De virus,
c'est vraiment
de
le
cheval
problème.
De Troie, etc.
C'est vraiment le problème, puisque ces gens-là, on ne sait pas qui c'est, hein, qui a développé ça. Évidemment, ils vont pas donner leur nom. Et puis leur programme n'est pas open source. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Et il est possible effectivement qu'ils utilisent votre machine à des fins qu'on ne connaît pas.
Oui, frauduleuses, bien sûr.
Voilà. Et donc effectivement, on déconseille. Vraiment de télécharger
ce genre de choses,
puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière.
Exactement. Du rififié entre Google et Samsung maintenant, Eric ?
Eh oui, tout.
Aïe.
Effectivement, en fait, Samsung, qui sans doute veut se démarquer de la concurrence, a choisi de faire évoluer son navigateur, le navigateur qui est intégré à tous les appareils Samsung, donc ça fait un sacré paquet, qui s'appelle navigateur Internet, donc c'est simple.
Hein. Oui, c'est pas bête, hein.
C'est une nouvelle interface de programmation qui permet en fait au navigateur de Samsung de bloquer les publicités. Et effectivement, le client Samsung peut désormais télécharger depuis le Play Store, le store de Google, un petit add-on qui va lui permettre de bloquer les pubs. Sauf que ça plaît pas vraiment à Google, les bloqueurs de pubs. On comprend pourquoi d'ailleurs. Hein.
Génétiquement, ça pose un problème.
Ça pose un problème et Google n'a pas du tout envie que Samsung puisse bloquer les pubs. Sur ses téléphones, puisqu'on se rappelle que c'est toujours la marque la plus populaire hein, de smartphones Android. Ce qu'a fait Google, c'est que le lendemain de cette annonce de Samsung, ils ont tout simplement supprimé
le plugin
permettait de bloquer les pubs.
Ah ouais, d'accord.
Qui avait été conçu avec main dans la main avec Samsung. Voilà. Alors le problème, c'est que du coup, on se demande comment tout ça va finir, puisque là, il y a d'autres plugins qui ont été lancés, mais Samsung pourrait très bien, râler un peu en disant que son partenaire privilégié Google lui pose des soucis et inversement, puisqu'il y en a un qui vend des téléphones, l'autre qui vend un OS et de la publicité. C'est un petit peu compliqué.
Eh oui, parfois même, hein, entre ces deux grands groupes qui travaillent main dans la main, on peut avoir quand même
Exactement,
quelques petites tensions.
Tout à fait.
C'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, Éric Le Bourdou.
Merci.
Rédacteur en chef de Zeronet.com. Vous restez avec nous. Suite et fin de l'atelier dans un instant avec Guillaume de Groix qui nous rejoint et le crash test d'Antoine Cyr. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Le crash test dans quelques instants avec Antoine Cyr. Bien sûr, on va parler de Caramel. Est-ce que vous vous souvenez de cette messagerie électronique qui avait été créée par Oriane Garcia ? Eh bien voilà, ça sera le thème du crash test d'Antoine dans quelques instants. Mais auparavant, je suis ravi d'accueillir Guillaume de Groix de l'atelier. Bonjour Guillaume.
Bonjour François, bonjour à tous.
Alors Guillaume, aujourd'hui, on va parler d'éducation. Tout ça parce que vous avez vu dans le métro les affiches du dernier Jobs, enfin du dernier film de Jobs qui retrace sa vie et qui est en salle actuellement.
Exactement, donc le deuxième biopic sur la vie de Steve Jobs. Et comment on fait le lien entre Steve Jobs et l'éducation ? C'est que vous vous souvenez sans doute du discours qu'il a fait à Stanford il y a déjà 10 ans, en 2005.
Et que vous pouvez retrouver sur YouTube, bien sûr, il est partout,
c'est
génial.
Voilà, c'est un exemple aujourd'hui d'exercice de style de discours. Et dans ce discours, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est de quitter l'école complètement et de pas dépenser toutes les économies de ma famille pour me payer des cours à l'école, parce que en France, on a cette petite spécificité qui veut que l'éducation soit de bonne qualité, qu'elle soit gratuite. C'est loin d'être le cas dans le reste du monde.
Enfin, les gratuites sont dans le public. Après, dans le privé, évidemment, c'est payant, hein, ça c'est clair.
Donc, finalement, il n'y a pas que Steve Jobs qui a fait cet exercice du drop-out, hein, du mythe du drop-out dans la vallée. On a Bill Gates aussi qui n'a pas fini ses études, Mark Zuckerberg, bien entendu, et puis plus proche de nous, Monsieur Niel.
Exactement. C'est un signe quand même, hein, tous ces grands qui sont en quelque sorte autodidactes, on peut le dire, hein, finalement.
Exactement, et qui choisissent en fait d'apprendre autrement.
Alors Xavier Niel, quand on pense à lui et quand on pense éducation, on évoque forcément l'école 42. Hein.
Mais oui, tout à fait, parce que finalement, ce que ça nous dit, cette évolution, c'est que le digital est en train de faire évoluer l'éducation. Il est en train de faire évoluer l'éducation sur le fond. L'école 42, c'est quoi ? C'est une école qui est complètement hors-circuit, qui donne pas de diplôme, qui cherche des développeurs débrouillards, qu'on fait rentrer dans cette école sans compétences particulières, si ce n'est leur capacité à résoudre des problèmes et à démontrer leurs compétences. Donc, sur ce plan-là, le digital et les gens du digital, cet univers du digital, sont en train de faire changer l'éducation sur le fond. Mais finalement, il n'y a pas que sur le fond que ça change, il y a aussi la forme. Et pourquoi est-ce que ça change sur la forme ? Parce que il y a cette mondialisation du savoir, mais il y a aussi le fait que ce savoir se retrouve partout. Il se retrouve sur Wikipédia, il se retrouve à la télé, il se retrouve en podcast et il se retrouve sur les MOOC.
Et bien sûr, exemple Coursera, arrivé en 2012, qui a complètement bouleversé, on va dire, les cours en ligne, quoi, les cours à distance.
Exactement. Et l'histoire de Coursera, elle est assez incroyable. C'est-à-dire que c'est un prof de Stanford d'intelligence artificielle qui décide de filmer son cours, de le mettre en ligne sur une plateforme qui s'appelle Coursera. Et à ce moment-là, il y a 150 000 personnes qui sont inscrites pour ce cours d'intelligence artificielle de Stanford, hein, quelque chose qui doit quand même être un petit peu difficile à suivre. Il y a 15 000 personnes qui ont suivi le cours en entier et il y en a 5 000 qui ont réussi l'examen de fin de cours. Et pour vous donner un chiffre, c'est à l'époque, le même cours à Stanford, c'est 200 étudiants. Donc là, on est complètement affranchi de l'espace, du temps, du lieu, etc. Et on a cette massification du savoir grâce au MOOC. Et ce qui est intéressant, c'est que on est en train, avec le digital, de passer d'un monde du savoir, de l'érudition, à un monde de l'intelligence, au sens un monde de la connexion. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est pas vraiment de savoir les choses, c'est d'être capable de faire des liens. Et finalement, le digital est en train de changer là-dessus, sur la forme et sur le fond.
Parfait, merci beaucoup Guillaume. Et après Guillaume, on termine cet atelier avec le crash test d'Antoine, bien entendu.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Et on enchaîne donc et on termine cet atelier numérique avec le crash test d'Antoine Cyr. Et on poursuit notre saga de la préhistoire du web. Vous étiez peut-être avec nous la semaine dernière pour revenir sur ce moteur de recherche star des années 2000, hein, Antoine, Lycos.
Oui,
va chercher avec ce sympathique labrador qui, bon, depuis a disparu, enfin pas tout à fait, mais qui existe encore sur le web, mais qui n'a plus véritablement de popularité. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre service qui a marqué les débuts du web finalement.
Et oui, qui s'appelait Caramel. Alors ça, Caramel, c'est un pionnier des services de messagerie. Donc ça s'appelle Caramail.
Caramail,
hein. Ouais. Et donc ce site, enfin ce plus exactement ce dispositif de messagerie est vraiment pour les pionniers du web à l'origine de vrais souvenirs, quoi, parce que les gens parlaient sur Caramel, échangeaient sur Caramel, c'était gratuit.
Bien sûr. On avait tous une adresse mail Caramel. Ah,
absolument.
Hein. Enfin, moi, à l'époque, je m'en souviens, j'en avais une.
C'était quelque chose de complètement iconique à l'époque. D'ailleurs, parmi les services de Caramel, il y avait un chat, il y avait des forums, il y avait un magazine, hein, le magazine Carazine, il y avait un annuaire qui s'appelait Carafuté, il y avait un système de sauvetage de documents qui s'appelait Caramalette, il y avait une plateforme d'enchères qui s'appelait Caraplaza. On voyait bien que derrière, il y avait on voit bien que derrière tout ça, il y avait finalement un projet assez visionnaire d'être présent sur le web sur tous les aspects. On voit bien que tous ces cara quelque chose, ils font un peu penser à toutes les déclinaisons de Google, par exemple.
Et puis moi, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, rappelez-vous, tous les sites web terminaient en OU.
Oui. C'était Wanadu, tous ces trucs-là, etc.
Il y avait le bout. C'est avec la chute de l'Internet à l'époque, ce qu'on pensait être la fin de l'Internet avec le fameux éclatement de la bulle.
De la bulle, oui. Hein,
cet éclatement de la bulle, il était dû à l'échec d'une société qui s'appelait Boo.com.
Exactement. Et alors, c'était amusant parce que, à l'époque, voilà, Caramel, on était sur un autre type de communication, c'était sympa.
Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Caramel a été revendu à une société qui s'appelait Spray, et Spray a été racheté par Lycos en 2000.
Oui.
Et donc Lycos, s'est cassé la figure au milieu des années entre 2000 et 2010.
Et a entraîné dans sa chute.
Et a entraîné dans sa chute Caramel, déjà parce que à partir du moment où les gens de Lycos avaient pris le pouvoir, les jeunes fondateurs de Caramel ne les intéressaient plus et n'avaient plus le pouvoir. Et parmi ces jeunes fondateurs, il faut bien dire que nous avons une personne particulièrement remarquable. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les autres soient pas remarquables. Les autres, c'est Alexandre Ross, Christophe Chaming, Philippe Payan, Thierry Lunati et Marc Reb. Et puis donc, la dernière, parce que c'est une femme, c'est Oriane Garcia.
Bien sûr.
Qui est une entrepreneuse.
Et qu'on a reçue combien de fois ici dans cet atelier numérique.
Voilà, bien entendu, du mail. Hein. Et donc, Oriane Garcia, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a co-créé Caramel et réussi dans l'Internet, alors qu'elle n'était absolument pas quelqu'un de scientifique, qu'elle n'était absolument pas une informaticienne. Elle a une maîtrise de lettres de la Sorbonne, son père était enseignant en art plastique et c'est donc beaucoup plus une sensibilité artistique, une sensibilité littéraire qui est la sienne. Elle a d'ailleurs créé dès 1994 un des premiers moteurs de recherche qui s'appelait Locas, qui avait été ensuite revendu à Infony et donc c'est par la suite donc comme ça qu'ils sont devenus fournisseurs d'adresses électroniques gratuite via Caramel. Alors c'est assez intéressant d'ailleurs parce que Oriane Garcia a écrit ses mémoires. Elle a raconté comment elle avait fait fortune dans le net parce qu'elle a quand même gagné beaucoup d'argent.
C'était l'époque où finalement une bonne idée bien emballée pouvait rendre riche.
Voilà. Et d'ailleurs, elle raconte, elle dit à l'époque, donc elle explique par exemple qu'à l'époque c'était plus facile de lever 60 millions de francs que 15 millions de francs. C'est peut-être d'ailleurs toujours un peu vrai. Hein. Elle disait, on était en juin 99, en pleine bulle Internet, on marchait sur la tête. Il faut bien le reconnaître. Notre site Caramel enregistrait une croissance d'audience hallucinante de 1000% en 6 mois. Nous cherchions 15 millions de francs, un peu plus de 2 millions d'euros, et nous n'avions aucun mal à trouver l'argent. C'est lui qui nous trouve. Nous discutons avec les plus grands noms du capital risque de l'Hexagone et finalement, c'est ABN AMRO, une banque hollandaise, qui l'emporte en mettant 15 millions de francs pour un peu moins de 10% du capital. Ça valorise à l'époque notre start-up à 150 millions de francs. Donc voilà.
Alors que le modèle économique à l'époque était encore incertain. C'est-à-dire qu'on investissait énormément d'argent sur des modèles qui n'étaient pas encore véritablement clairs.
Oui, tout à fait.
Mais oui.
Alors, est-ce qu'il lui était pas, c'était tellement pas clair d'ailleurs qu'il lui est arrivé à cette pauvre Oriane Garcia quelque chose de vraiment assez désagréable parce qu'elle a été victime d'un racket, d'un chantage. Elle explique d'ailleurs qu'elle a dû médiatiser l'affaire à l'époque pour se protéger. C'était un racket parce qu'elle voulait faire savoir que ça n'arrive pas qu'aux autres. En fait, c'est un escroc qui voulait absolument obliger les fondateurs de Caramel à vendre leur nom de domaine. Et comme dit Oriane Garcia, il n'avait pas l'air de rigoler. Il connaissait jusqu'à l'école que fréquentait la fille de l'un d'entre nous. Et après 2 mois, la police judiciaire a fini par appréhender cet individu qui nous faisait vivre un enfer. Donc c'est quand même
incroyable,
tout à fait étonnant. Voilà. Et donc évidemment aujourd'hui Oriane Garcia est un peu triste de la morosité qui existe aujourd'hui dans notre pays, mais ça reste quelqu'un qui croit beaucoup aux startups et qui a des idées qui essaye d'écrire et qui a fait partager ses idées.
Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que les adresses Caramel marchent encore aujourd'hui ?
Alors, figurez-vous que ce qui s'est passé, c'est que des nostalgiques...
Si on dépoussière notre adresse caramel, est-ce qu'elle
fonctionne ? Des nostalgiques de l'époque caramel ont retrouvé le code source du chat du portail et ont réouvert un site. Alors, je vous donne l'adresse. Oui. C'est www.chats, donc tchats.net/beta.php.
D'accord.
Donc, je répète, www.chats.net/beta.php. Et donc, sur cette adresse, vous allez pouvoir rechatter comme au joyeux temps de caramel.
Oh là là. Bon, on sera un petit peu plus vieux, mais ça sera la nostalgie. Merci Antoine pour ce crash test. Bien évidemment, c'est avec ce crash test que se termine cet atelier numérique. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. On sera là, bien sûr, samedi prochain dès 16h.